Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
Comment ça va ?
Eh bien, nous sommes heureux toujours de parler du Saint-Esprit. On ne peut être qu'heureux sous l'onction du Saint-Esprit.
Oui, on est porté par lui. Et en lisant le numéro 683, j'ai trouvé de nouvelles questions à te poser. Il est dit à ce numéro qu'on ne peut pas voir le Fils de Dieu sans l'Esprit Saint. Ça me semble curieux quand même, parce qu'à l'époque de Jésus, tout le monde voyait Jésus.
Oui, c'est une bonne question, et c'est vrai que le Saint-Esprit, comme nous le disions précédemment, reste mystérieux. Selon l'expression de Jésus à Nicodème, il souffle, on ne sait d'où, et on ne sait où il va, hein, d'où il vient, ni où il va. Donc il y a quelque chose de caché, un peu comme le vent, eh ben, vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. Hein. Il y a quelque chose, un peu une bonne comparaison, et justement, le mot Saint-Esprit en grec, c'est pneuma. Pneuma, c'est le souffle. C'est un des noms donc étymologiques pour faire comprendre le rôle du Saint-Esprit. Un souffle, dans le fond, on ne le voit pas, mais on le sent. On sent bien qu'il y a du vent. On sent qu'il y a quelque chose. Eh bien, il y va un petit peu de même dans une analogie de proportionnalité entre le souffle terrestre qu'on ne voit pas mais que l'on sent et le Saint-Esprit qu'on ne voit pas comme on voit Jésus et pourtant que l'on sent. Il y a quelque chose de lui qui est ressenti. Et il y a une obligation de passer par le Saint-Esprit, comme dit 1 Corinthiens 12, 3. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. Et donc, il y a vraiment une nécessité de passer par l'Esprit Saint pour arriver à proclamer le nom de Jésus. Et le texte donc, auquel tu faisais allusion dans le 683 du catéchisme de l'Église catholique, « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Cette connaissance de foi n'est possible que dans l'Esprit Saint. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit Saint.
Oui, donc si on veut avoir une relation réelle avec le Fils de Dieu ou avec le Père, il faut qu'on demande à l'Esprit Saint de venir nous aider, si je comprends bien.
Eh bien voilà, voilà d'où l'importance de cette prière fervente à l'Esprit Saint, par où on devrait dans le fond toujours commencer notre journée ou notre oraison. Une prière à l'Esprit Saint, on peut très bien prendre le Veni Sancte Spiritus ou le Veni Creator, qui sont ces grands hymnes que l'on utilise au moment de la Pentecôte, puisque traditionnellement, le grand moment où le Saint-Esprit se révèle à la communauté primitive, c'est bien la Pentecôte. Et donc, l'Église a mis en place des très belles prières au Saint-Esprit, et dans le fond, on pourrait tout à fait faire en sorte qu'on puisse reprendre ces prières le matin pour nous aider à faire tout sous le souffle de l'Esprit pour arriver à Jésus. On peut prendre des formules plus courtes. Moi, j'en connais une et je me propose de la livrer aux auditeurs.
Très
C'est
bien.
La prière de Sainte Mariam Bawardi qui est très courte et je vous invite à l'écouter. Esprit Saint, inspirez-moi. Amour de Dieu, consumez-moi. Au vrai chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-nous.
Ah, très bien.
Belle prière au Saint-Esprit qui est courte, qui est facile à retenir et qui permet de se mettre d'emblée sous le souffle du Saint-Esprit pour aller à Jésus.
Quand j'entendais ces citations bibliques, on ne peut pas dire « Abba Père » sans l'Esprit Saint ou dire que Jésus est Seigneur sans l'Esprit Saint, je ne comprenais pas parce que j'arrivais très bien à la sortie de la messe à dire « Jésus est Seigneur » et « Abba Père ». Alors, mais je comprends aujourd'hui que c'est davantage de comprendre la réalité, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu, c'est ça, c'est bien ça.
Oui, il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, comme ferait un nominaliste qui finirait par ne plus s'intéresser au contenu et à la substance et à la réalité qui sont sous les mots. Mais bien sûr, les intégrer, ces noms, ces mots, pour toucher avec notre cœur et donc avec la foi ce qu'ils sont. Et dire que Jésus est Seigneur, ça m'engage plus que de faire une phrase qui serait juste au niveau grammatical et au niveau historique, mais faire un acte de foi dedans qui m'engage et qui dit que si je prononce ces paroles, c'est que je veux être sous la seigneurie de Jésus, que je veux être disciple de Jésus, que je veux m'engager à sa suite et que je crois qu'il est le maître de l'histoire. Comme disait Paul VI une fois dans un très beau voyage qu'il avait fait donc, aux Philippines, Jésus est la clé, le maître de l'histoire. Donc Jésus est Seigneur, voilà ce que l'Esprit Saint me fait dire.
Très bien. Alors en lisant un peu plus loin, au 685, numéro 685, il est dit que l'Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors là, tu touches une très très vieille difficulté des débuts de l'histoire de l'Église. C'est que d'abord, il a fallu affermir la foi en la divinité de Jésus. Et la façon de dire que Jésus est vrai Dieu, et de nombreux passages de l'Écriture le disent, que Jésus est vrai Dieu. Nous citions il y a peu la première épître de Saint Jean, mais tout à la fin de la première épître de Saint Jean, on a peut-être le plus beau passage qui affirme la divinité de Jésus. Je vous le lis. « Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ, celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Incroyable. Donc avec une force, Saint Jean a affirmé la divinité de Jésus. 1 Jean 5, 20 à retenir. Donc si un jour on vous dit Jésus n'est que le Messie, mais non, il n'est pas que le Messie. Jésus est un prophète. Non, il est vrai Dieu. Et nos Écritures le disent avec beaucoup de fermeté. Et la façon de le dire, pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, les pères de l'Église ont parlé donc d'une unique substance entre le Père et le Fils. Et pour le dire d'une manière directe, sans être obligé de faire une longue phrase, ils ont dit que le Père et le Fils étaient consubstantiels. C'est-à-dire qu'ils avaient le même être, finalement. C'est ça ce que ça veut dire, consubstantiel. Ils ont le même être, bien qu'ils soient distincts du point de vue des personnes. Dans le fond, quand on parle de la Trinité, on parle de Dieu, un seul Dieu, et nous sommes monothéistes à 100%, mais nous parlons de l'intimité de Dieu. En Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, pour affirmer d'abord la divinité de Jésus, les pères, au concile de Nicée en 325, ont su dire que le Père et le Fils étaient consubstantiels. Dans le credo que l'on récite actuellement dans nos églises, eh bien, on le dit qu'il est le Fils consubstantiel au Père. Eh bien, pour affirmer que le Saint-Esprit est Dieu, et de nombreux passages de l'Écriture nous pousse dans cette direction, puisque Jésus lui-même demande que l'on baptise à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il les met les trois au même niveau, sur le même pied d'égalité. Et de ce point de vue-là, les pères de l'Église ont compris qu'il ne fallait pas laisser le Saint-Esprit à côté, faire comme ceux qui étaient appelés les pneumatomaques, ceux qui luttaient contre le Saint-Esprit, en disant « c'est un troisième, mais il n'est pas Dieu ». Non, il est consubstantiel, lui aussi, au Fils et au Père. Donc il y a une consubstantialité partagée des trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette consubstantialité nous permet d'affirmer les choses avec beaucoup de fermeté, en disant qu'il y a donc un Dieu en trois personnes, que les trois personnes sont bien réelles, sont distinctes. Il ne s'agit pas d'un simple modalisme où Dieu apparaîtrait un peu comme un père une fois, un peu comme un fils une autre fois, un peu comme un Saint-Esprit une troisième fois, mais les trois sont réellement distincts, avec des relations qui les caractérise. Le Père engendre de toute éternité le Fils. Le Père et le Fils spirent le Saint-Esprit, c'est-à-dire donnent souffle au Saint-Esprit. C'est l'esprit d'amour entre le Père et le Fils, qui est le don du Père et du Fils. Et c'est cette relation, donc, est substantielle aussi. On dira que les trois relations, Père engendrant le Fils, Fils engendré du Père, et Père et Fils spirant le Saint-Esprit, sont des relations qui sont substantielles. Donc la substance est partout dans la Trinité. Et même les relations entre les trois personnes, eh bien, n'interfèrent pas au point de supprimer la consubstantialité. Donc la consubstantialité, c'est absolument radical, et c'est pour cela que récemment, on a changé la traduction du credo français, à la différence des autres langues, l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, qui avaient gardé le mot consubstantiel, nous avons dit pendant un certain temps « de même nature ». Mais c'est un peu faible parce que nous avons la même nature animale, par exemple, que le lapin. Donc nous sommes co-naturels au lapin. On comprend très bien que c'est un peu faible. Donc non, il y a une consubstantialité, c'est-à-dire un même être partagé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc on peut ajouter à Nicée cette vérité que le Saint-Esprit est aussi consubstantiel. Alors on ne le dit pas directement dans le credo, mais il faut le croire.
Très bien. Merci, frère Édouard.
À bientôt.
À bientôt.